Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Planète Business, le rendez-vous qui décrypte les grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux qui façonnent l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement à un secteur stratégique pour le continent, l'agriculture. Un secteur qui fait vivre des millions d'Africains. Un secteur qui fait vivre des millions d'Africains, mais qui doit aujourd'hui faire face à des défis sans précédent. Changement climatique, sécheresse récurrente, raréfaction des ressources en eau, hausse des coûts de production, volatilité des marchés internationaux. Les agriculteurs africains sont en première ligne. Pourtant, ces contraintes poussent également le secteur à innover, à se digitaliser, à repenser ses modèles de production pour construire une agriculture durable, plus résiliente et plus compétitive. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Kamal Aberkani. Il est expert en agriculture, mais également professeur. Ensemble, nous allons explorer les solutions qui pourraient transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour l'Afrique de demain. M. Aberkani, merci de nous faire l'honneur de participer à cette émission.
Bonjour monsieur, merci pour votre invitation.
Alors, avec le changement climatique et les contraintes économiques que connaît actuellement le continent, quelles sont selon vous donc les principales leçons tirées par l'agriculture africaine ces dernières années ?
Alors oui, bien sûr, on a eu des perturbations et des mutations climatiques durant les dernières années, soit en termes de sécheresse, inondations, d'autres facteurs, d'autres impacts de ces mutations climatiques. C'est vrai, on a vécu ça dans plusieurs régions et pays africains. Alors maintenant, c'est le moment de dire qu'on n'a pas commis des erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs, c'est le contraire. C'est qu'il faut apprendre de cette expérience, surtout l'agriculture. Donc c'est comme il y a un genre d'adaptation. Je pense que la première leçon qu'on va tirer, c'est la planification agricole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut produire, où il faut produire et comment on va produire. On sait que les conditions ne sont plus comme il y a 20 ans, des conditions plus stables en termes de climat, en termes de précipitations, en termes de température. Mais là, on se trouve dans des situations de perturbation, de canicule de chaleur, de sécheresse, des inondations. Je pense que maintenant, l'agriculture africaine, il est de plus en plus vigilant, c'est-à-dire il sait comment il faut produire, où il va produire, comme je disais tout à l'heure. Et même les institutions étatiques, les intervenants comme des sociétés, des compagnies, toutes les institutions qui donnent des services, je pense à un moment donné, je pense qu'ils ont tiré profit. Maintenant, c'est comme il y a vraiment une planification intelligente de production.
Intelligente de production. Et aujourd'hui, si ces contraintes persistent au cours des 10 prochaines années, pensez-vous que l'agriculture africaine sera davantage préparée à plus être performante, plutôt performante qu'aujourd'hui?
Oui, je pense qu'à long terme, oui, je pense que l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, l'agriculteur africain, il a appris, il est en train aussi d'apprendre, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quels sont les scénarios qu'on va avoir dans les prochaines années. Je pense à long terme, oui, je pense que l'agriculture africaine, il peut s'adapter. Et on a vu des modèles, par exemple, le modèle marocain, on a eu des sécheresses pendant 7 ans, et je pense même, il y a deux ans, on était dans des situations de sécheresse, mais on a vu que l'agriculture marocaine s'adapte en maintenant sa superficie. En relation avec les ressources d'eau et les ressources naturelles. Je pense que oui, l'agriculture africaine, il va s'adapter avec cette situation en utilisant les bonnes pratiques agricoles comme des semences tolérantes à la sécheresse, des semences tolérantes à la canicule de chaleur, l'utilisation, je pense que il va savoir quand est-ce qu'il faut semer, où il faut semer, et s'adapter avec le marché.
S'adapter avec le marché dans cette dynamique, comment d'ailleurs la coopération entre les pays du Nord et du Sud peut-elle donc contribuer à renforcer la durabilité de l'agriculture africaine et garantir la sécurité alimentaire ?
Alors oui, bien sûr, cette collaboration Nord-Sud est très importante et maintenant on parle aussi de la collaboration Sud-Sud. Je pense que cette collaboration Nord-Sud, parce que maintenant on parle d'une alliance, on ne parle pas plus de... Bah, pas, on parle de la souveraineté alimentaire, mais on parle aussi de l'alliance alimentaire. Il faut savoir que les pays africains, ce sont des pays qui ont des terres qui sont très fertiles, très riches, et avec un climat très important. Et je pense qu'il y a une alliance avec les pays du Nord. On exporte des fruits et légumes vers l'Europe, vers l'Amérique et vers les pays occidentaux. C'est-à-dire, je pense que même l'agriculture africaine, elle est affectée. Je pense qu'il va avoir un impact négatif sur le reste du monde. Alors je pense qu'il y a un intérêt de cette collaboration nord-sud et on a vu des programmes, plusieurs programmes, soit via des universités, via des programmes de recherche, des programmes des ONG, des organisations non gouvernementales vers le sud afin de développer, d'avoir une agriculture durable qui utilise moins de pesticides, moins de ressources hydriques et aussi d'aider ces paysans, les petits et moyens paysans dans le milieu rural afin de maintenir leur activité. Je pense que cette collaboration est très importante et je propose aussi d'avoir une feuille de route dans l'avenir qui est plus une feuille de route, encore une fois, plus intelligente et ciblée des filières de production qui ont un impact socio-économique très important, soit pour le Nord, soit pour le Sud.
Et justement, la décarbonisation est aujourd'hui au cœur des stratégies agricoles mondiales. L'Afrique peut-elle tirer, selon vous, un avantage économique et environnemental de cette transition ?
Alors oui, la décarbonation, c'est vrai, si je me permets de le dire entre parenthèses, c'est comme un joker pour l'agriculture mondiale et même pour l'agriculture africaine. Il faut savoir que le secteur agricole, c'est un secteur qui pollue aussi, hein, il n'y a pas que l'industrie. Mais je pense qu'en Afrique, on a moins de crédit carbone, c'est-à-dire on pollue moins. Je pense que les pays industrialisés, ils vont aller chercher des crédits carbone. Je pense maintenant, c'est le moment d'aller chercher ces crédits carbone. Alors comment ? C'est-à-dire, si on utilise des bonnes pratiques agricoles, on va séquestrer plus de carbone de l'air. Donc, on va être payé pour ce carbone. Donc, c'est très important, cette empreinte carbone, parce que maintenant, tout ce qui est exportation, c'est vraiment le marché international, il cherche une empreinte zéro carbone. Je pense que c'est le moment de préparer une feuille de route à long terme pour, pourquoi pas, l'Afrique, il va être un leader dans la décarbonation, l'agriculture qui décarbone, qui séquestre le carbone le plus et qui va avoir un revenu, un revenu économique et environnemental, soit pour le paysan et soit pour les États africains.
Et pour parler de cette feuille de route, nous allons tout de suite suivre votre moment et la minute RSE. Avant de revenir avec notre invité, je rappelle qu'il s'agit de M. Kamal Aberkani, expert en agriculture, que nous accompagne aujourd'hui pour parler de la thématique de comment nourrir demain dans un climat qui change. Tout de suite, la minute RSE.
La responsabilité sociétale des entreprises continue de franchir un cap majeur en 2026. En Europe, la réforme dite Omnibus a simplifié les obligations de reporting durable. Résultat, près de 80% des entreprises initialement concernées par la directive CSRD sortent désormais du périmètre obligatoire, tandis que les indicateurs à déclarer ont été réduits de plus de 60% afin d'alléger la charge administrative. Mais attention, moins d'obligations ne signifie pas moins d'exigences, les investisseurs, les banques et les grands donneurs d'ordre continuent de réclamer des données ESG fiables. Selon les dernières analyses du secteur, 9 entreprises sur 10 concernées par ces évolutions réglementaires prévoient malgré tout de maintenir ou renforcer leur reporting extra-financier, convaincus que la transparence reste un avantage concurrentiel. Autre tendance forte, l'harmonisation mondiale des normes de durabilité. À ce jour, 42 juridictions dans le monde ont adopté ou annoncé l'adoption des standards ISSB conçus pour uniformiser les pratiques de reporting ESG à l'échelle internationale et faciliter la comparaison entre entreprises. Enfin, en Afrique, la dynamique s'accélère. Le Pacte mondial des Nations Unies rassemble désormais plus de 1000 entreprises engagées dans 45 pays africains, illustrant la montée en puissance de la durabilité comme levier de compétitivité, d'attractivité et d'accès aux marchés internationaux. Une chose est sûre, en 2026, la RSE n'est plus seulement une question d'image, elle devient un facteur stratégique de performance, d'innovation, de résilience et d'accès au financement.
De retour avec notre invité, M. Aberkani. Nous étions tout à l'heure en train de parler de cette feuille de route totalement ancrée dans cette politique des RSA agriculture. Alors, la digitalisation transforme progressivement des exploitations agricoles. Quel regard portez-vous d'ailleurs sur l'évolution de l'agriculture numérique en Afrique qui est devenue aujourd'hui une tendance ?
Alors oui, bien sûr, l'agriculture digitale, encore une fois, je vais utiliser la parenthèse, c'est un autre joker pour l'agriculture africaine, parce que normalement, maintenant, avec l'évolution technologique, on a vu tellement de technologies qui existent sur le marché. On parle des drones avec des caméras intelligentes qui peuvent faire un très bon diagnostic, des drones qui peuvent faire une pulvérisation plus intelligente et économique, des capteurs intelligents pour utiliser des ressources hydriques d'une bonne manière. Donc maintenant, on n'est plus, c'est-à-dire on peut piloter nos pratiques agricoles à distance. Moi, je pense que voilà, il y a tellement de compagnies, il y a tellement d'innovations dans le monde, il y a tellement de, comment je peux dire, de matériel et d'outils technologiques. Je pense que la contrainte, elle est où ? C'est vraiment comment on peut appliquer cette digitalisation avec le petit et moyen producteur. Parce que c'est vraiment ça la cible. Il n'y a pas que les grands producteurs, c'est parce que normalement, ils peuvent utiliser des ingénieurs qui peuvent utiliser ces outils. Je pense qu'à un moment donné, et sur une feuille de route de long terme, la digitalisation, c'est une opportunité, mais il faut préparer le petit et moyen paysan dans l'avenir, comment il va utiliser ces technologies dans le futur via bien sûr des agrégations, des associations. On a vu ça aux États-Unis dans les années 80. Hein. C'est vrai, il y avait cette contrainte, comment on peut impliquer cette digitalisation. Je pense qu'on peut utiliser ces modèles pour le futur afin d'utiliser cette opportunité et ce joker pour une agriculture résiliente au changement climatique.
Et aujourd'hui, selon vous, quel rôle les États et les entreprises, mais aussi les institutions financières, les chercheurs, sans oublier les organisations agricoles, doivent-ils jouer pour accélérer la transition vers une agriculture durable et résiliente ?
Alors oui, ce sont tous des acteurs très importants. On parle d'un modèle parce que normalement on a besoin de l'université, on a besoin pour les formations, on a besoin des centres de recherche pour la recherche scientifique, on a besoin des gens qui vont faire le transfert et le pont technologique entre voilà l'innovation et vers le output, c'est-à-dire l'agriculteur. On a besoin de financement aussi, hein, parce qu'on peut pas rouler des projets innovants et durables sans financement. Et on a besoin aussi d'une politique, parce que c'est très important. Si on n'a pas de politique agricole, on peut rien faire. Je pense que maintenant, dans le modèle européen, parce qu'on a plus d'expérience avec les collaborations Nord-Sud via les programmes de recherche Horizon Europe, Prima et tout ça, je pense que tous les acteurs que vous venez de dire, c'est très important. Je pense que c'est le modèle. Ils ont un rôle très important pour tracer cette feuille de route.
Et pour tracer cette feuille de route, les critères ESG et aussi les démarches RSE prennent une place croissante, comme vous le savez, dans les chaînes de valeurs agricoles. Comment aujourd'hui ces approches peuvent-elles donc bénéficier très rapidement aux producteurs africains ?
Oui, alors bien sûr, la RSE, on a déjà parlé dans plusieurs émissions avec vous, et bien sûr, la RSE est très importante, c'est que maintenant les entreprises ne vont pas plus faire un profit économique, c'est parce que s'il y a de la sécheresse, il y a des inondations et l'agriculteur il est affecté, ben à ce moment-là, l'entreprise aussi il est affectée. Et je pense que la RSE, c'est une démarche qui s'intègre dans ce modèle que vous venez de dire avec l'implication des institutions financières, de toutes les entreprises et tout ça. Je pense que la RSE est une composante importante dans cette démarche, encore une fois, pour préparer cette feuille de route.
Et face au changement climatique et aux mutations économiques mondiales, le défi est immense, mais les opportunités le sont tout autant. Innovation, digitalisation, agriculture durable, décarbonisation et coopération internationale, tout cela constitue désormais les piliers d'une transformation indispensable. Plus qu'un simple secteur économique, l'agriculture représente un enjeu de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et aussi de développement durable pour l'ensemble du continent. Merci encore à vous, Monsieur Kamal Aberkani, pour votre expertise, mais aussi ses éclairages. Merci aussi de nous avoir permis d'en savoir plus sur aujourd'hui cette dualité entre climat, agriculture, mais aussi la transformation dans le cadre des travaux, bien évidemment, que vous menez et aussi que mènent les agriculteurs du Maroc et aussi dans le monde.
Merci à vous et c'est toujours un plaisir. Merci.
Merci encore à vous, chers amis, de nous avoir suivis dans votre émission Planète Business. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours sur Média Radio.